changer, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
France Inter M.
Y aller voir de plus près, de Maggie Marin, du 21 au 29 octobre au Théâtre de la Ville Les Abbesses avec le Festival d'Automne. Dans ce nouveau fragment d'histoire et d'humanité, la chorégraphe Maggie Marin interroge la nature de la violence et son inlassable répétition. Elle n'hésite pas à puiser dans le chef-d'œuvre de la littérature antique pour dénoncer les maux de notre société. Un spectacle plus qu'essentiel à découvrir. Y aller voir de plus près de Maggie Marin au Théâtre de la Ville Les Abbesses, un spectacle France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, une petite vague d'inquiétude, légère recrudescence du Covid en France. Comment interpréter la petite hausse du taux d'incidence et du nombre de cas dans les deux tiers des départements? L'analyse de l'épidémiologiste Pascal Crépet dans un instant. Le Covid et ses conséquences économiques, forte reprise et pénurie, faute de semi-conducteurs. L'usine Renault de Sandouville est à l'arrêt. La campagne présidentielle, une Valérie Pécresse très anti-Macron devant la presse ce matin. Et François Asselineau se lance officiellement, l'homme du Frexit. Le droit national contre le droit européen, la Pologne. Et sur ce chemin, le Premier ministre polonais devant le Parlement européen ce matin. Dans l'actualité encore, la peur d'une guerre civile, la tension ne retombe pas à Beyrouth. Le PSG face à Leipzig ce soir en Ligue des champions de football. Le directeur des rédactions de Paris Match et du JDD, Hervé Gattegnaud, quitte ses fonctions. À 13h30, 10 ans de reportage en banlieue et ce livre au titre choc. Et les Blancs sont partis. Le journaliste Arthur Freyer-Lalex décrit la ghettoisation des quartiers populaires. Il est notre invité. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Vos autres rendez-vous dans le 13-14, le vif de l'histoire, quand un vieux bouquin trouvé par hasard par Jean Lebrun semble écrit aujourd'hui. Le feuilleton avec le dernier guitariste de Georges Brassens. Et dans C'est une chanson, nous écouterons du Axel Red, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un frémissement plutôt qu'une hausse nette. Les chiffres du Covid sont un peu moins au vert en cette fin de mois d'octobre. Taux d'incidence nationale 48, on était à 43 la première semaine du mois, on reste sous le seuil d'alerte. On observe des légères hausses dans deux tiers des départements, mais on partait de très bas. On reste bien au-delà des 5000 nouveaux cas par jour, un peu plus de 1000 pour la journée d'hier. Ça ne diminue plus dans les hôpitaux, mais là aussi on est tombé à des niveaux bas. On est à près de 50 millions de Français complètement vaccinés, près de 90% des plus de 12 ans. Mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lance tout de même un appel à la vigilance. L'épidémie recommence à gagner du terrain. Alors s'inquiéter ou pas, question à l'épidémiologiste Pascal Crépet.
Cette vague hivernale, on s'y attendait parce qu'il s'est passé exactement la même chose l'année dernière. Et donc c'est l'effet saisonnier, le fait que l'hiver favorise les transmissions du virus qui nous amène dans cette situation de remontée des incidences. Mais remontée des incidences de notamment de tests positifs ne va pas signifier forcément une remontée du même type des hospitalisations parce que la France est massivement vaccinée. Et donc, les hospitalisations ne vont pas remonter dans les mêmes proportions qu'elles ont pu le faire sur la vague hivernale de l'année dernière. Mmh. Et il y a a priori, à l'heure actuelle, peu de chance que cette nouvelle vague éventuelle, hein, faut rester encore prudent, ne submerge notre tissu hospitalier.
Avec Marc Fauvel sur France Info, Pascal Crépet, enseignant-chercheur à l'École des hautes études de santé publique à Rennes. Le gouvernement veut garder tous les instruments en main pour contrôler le virus le plus possible. La prolongation du pass sanitaire au-delà de la présidentielle jusqu'à l'été est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Prolongation de 8 mois donc. L'opposition trouve ce délai beaucoup trop long. Surtout s'il n'y a pas de contrôle du Parlement d'ici au mois de juillet. Le gouvernement appelle également ceux qui ont droit à une troisième dose, le rappel, à en profiter. 6 millions de personnes éligibles, seuls 2 millions ont subi la piqûre. Le début de la campagne de vaccination contre la grippe est par ailleurs avancé à vendredi pour faciliter l'administration au même moment des deux vaccins. Après les longs mois de crise économique, la reprise est très nette. trop à certains égards. Tension sur les prix de l'énergie, pénurie de composants, de matières premières, pénurie de semi-conducteurs en particulier, les composants électroniques indispensables à la fabrication de beaucoup d'objets, les voitures notamment. Maxime Debs, deux sites de Renault sont à l'arrêt.
La fermeture pour deux semaines de l'usine de Sandouville, de même que celle de Batilly en Meurthe-et-Moselle, d'où sortent les Renault Master, confirme une amplification du recours au chômage partiel, lequel fait l'objet d'un accord chez Renault. La direction insiste, les salariés touchés sont tous rémunérés à 100% du fait de cet accord. Une condition à ça quand même, et pas des moindres, que ces salariés acceptent de donner une RTT tous les 5 jours chômés. Et c'est peut-être là le souci aujourd'hui. Certains n'en ont plus en réserve, alerte une voix syndicale chez Renault, avec le risque pour eux de tomber à 84% de rémunération demain. En interne, certains commencent à reprocher à la direction d'un peu trop tirer sur la corde et de profiter du dispositif mis en place par l'État. L'État où là aussi on tape un peu sur les doigts de Renault. Si le constructeur, comme les autres, manque de semi-conducteurs aujourd'hui, c'est qu'au pire de la crise, ils ont coupé les robinets d'approvisionnement. Maintenant, pour refaire leur stock, ils font la queue comme tout le monde.
Voilà pour l'industrie auto. Du côté des automobilistes, la préoccupation du moment, c'est la hausse des carburants. Et comment lutter contre cette hausse? 1,56€ le litre de gazole en moyenne nationale au dernier pointage du ministère de l'écologie, 1,66€ le sans-plomb 95. Le gouvernement promet de présenter un dispositif, chèque carburant ou autre, d'ici à la fin de la semaine. Et le jeu du moment consiste à trouver la station-service où les prix ne flambent pas trop. Voici un exemple, une station communale à Trébris, dans les Côtes d'Armor. Joanne Moison, France Bleu Armorique.
La commune a investi 120 000 euros pour construire sa station-service, dont elle ne tire aucun bénéfice, précise le maire Daniel Comeau.
Trébris, on est à 15 km de Lamballe. Les gens, pour avoir du carburant, il faut faire au moins 15 km. Donc, le conseil a décidé en 2019 de construire une station. C'est un service apporté à la population. On a fait un prêt sur 15 ans. Il n'y a pas de bénéfice. L'objectif, c'est rembourser le prêt. En moyenne, on tourne à 5 centimes de marge par litre pour le remboursement de la station.
Les pompes fonctionnent 24 heures sur 24. Elles sont installées dans le bourg, juste à côté de la supérette qui appartient aussi à la mairie. Les prix des carburants sont assez proches de ceux des grandes surfaces du secteur. 1,62€ le litre de sans-plomb 95, 1,51€ pour le gasoil. L'augmentation est prévue à la prochaine livraison. Le maire surveille les cours du pétrole dans son bureau à la mairie.
On a à peu près une livraison par mois. Donc ce mois-ci, par exemple, j'ai eu la chance d'acheter avant la hausse des deux dernières semaines. Et là, effectivement, la prochaine fois, ça va être la douloureuse. Vu le niveau, donc on est aujourd'hui à 85$ le baril.
Et vous les regardez souvent, là, vos chiffres, là?
Quand approche la commande, oui, je regarde tous les jours.
Chaque jour, une trentaine de personnes vient se servir en carburant ici, dans cette petite commune de 800 habitants.
Le dispositif pour contrer la hausse des carburants attendu d'ici à la fin de la semaine, donc, quant au bouclier contre la hausse du prix du gaz et de l'électricité, il coûtera 5 milliards d'euros à l'État l'année prochaine. C'est ce qu'a précisé ce matin le ministre des Comptes Publics, alors que les députés examinent aujourd'hui le premier volet du budget. Budget en déficit de près de 5%. Et le Haut Conseil des Finances Publiques estime que toutes les dépenses ne sont pas clairement identifiées. La dette de l'État sera l'année prochaine, selon le projet de budget, de 114%. Les impôts locaux augmentent. Taxe foncière en hausse de 1% dans les 50 plus grandes villes de France. Elle a grimpé en moyenne de près de 28% dans les communes entre 2010 et 2020. Ce sont des chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers donnés ce matin par nos confrères du Parisien. Le pouvoir d'achat est donc devenu un sujet de la pré-campagne présidentielle. On évoquait hier l'appel du communiste Fabien Roussel à manifester devant les préfectures la semaine prochaine. La campagne à droite bat son plein avant le congrès de début décembre, lors duquel les militants LR choisiront leur candidat. Valérie Pécresse a parfois été qualifiée de Macron compatible. Alors qu'elle cherche l'approbation des militants de droite, c'est une image dont elle cherche à se défaire. Anne Souhaitement, c'est une Pécresse anti-Macron qui tenait une conférence de presse ce matin.
Pas question de ralentir. Après avoir joué le jeu de l'unité en partageant tôt ce matin un petit déjeuner avec ses adversaires au Congrès, Valérie Pécresse a poursuivi sa campagne marathon en donnant une conférence de presse sur le bilan d'Emmanuel Macron, un quinquennat pour presque rien.
Je crois qu'il est important d'ouvrir les yeux des Français. Emmanuel Macron a échoué à réformer la France.
Sécurité, immigration, maîtrise de la dépense publique, écologie, éducation. Valérie Pécresse pilonne le bilan d'Emmanuel Macron, un président communicant mais pas réformateur, il a cramé la caisse, s'emporte la candidate, référence au torrent d'annonces de ces dernières semaines. Une manière pour celle qu'on a souvent taxée de macro-compatible de marquer sa différence, un gage d'opposition après avoir été donnée première ministrable d'Emmanuel Macron.
Et c'est très dangereux d'élire un président qui ne tient pas ses engagements. Il a les mots de la droite, mais il n'en a à aucun moment les actes.
Des actes, Valérie Pécresse en promet, suppression de 150 000 postes dans l'administration, économie de 45 milliards d'euros pour freiner la dette. Ce sérieux, qui avait été la marque de fabrique du candidat Fillon à la primaire 2016, saura-t-il séduire les adhérents LR version 2021 ? Valérie Pécresse y croit dur comme fer. Tout un symbole, elle est allée jusqu'à débaucher le même directeur de campagne que François Fillon, Patrick Stefanini.
Et combien seront candidats à la présidentielle au final ? On verra qui tient la distance et obtient en particulier les parrainages nécessaires. François Asselineau, l'homme du Frexit, n'avait pas pu être candidat en 2012. En 2017, il avait recueilli moins de 1% des voix. Depuis cette date, il a subi une mise en examen pour harcèlement moral et harcèlement sexuel et agression sexuelle aussi. Il se lance à nouveau, c'est officiel depuis ce matin, Timur Özturk. Est-ce qu'il y a un espace politique pour lui ?
Eh bien, François Asselineau n'est plus le seul sur son créneau du Frexit. Florian Philippot, après son départ du FN en 2017, est devenu un concurrent direct de François Asselineau avec son propre parti, les Patriotes.
10 ans après que j'avais créé le mien, il a jugé bon de créer le sien. Bon, en reprenant 90% de ce que je disais. Pas que. Je rappelle que nous, je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai dit en revanche qu'il fallait qu'il y ait la liberté de choix. Maintenant, nous sommes encore en début de campagne. Peut-être que dans les semaines et mois qui viennent, il va y avoir des effets d'agglomération.
Mais pour le moment, chacun reste dans son couloir. François Asselineau veut surtout croire que la proposition centrale de son programme, le Frexit, peut s'imposer dans la campagne.
On veut que le débat ait lieu, comme il a eu lieu d'ailleurs au Royaume-Uni, où il s'est terminé par un Brexit. Nous, ce débat n'a pas lieu. Et si vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est comme si vous aviez lâché une flatulence devant un public choisi. Non.
Le candidat est aussi confronté à des obstacles matériels. Peu d'argent dans les caisses de son parti. Il lance un site pour lever des fonds auprès des électeurs. Autre difficulté, trouver les 500 parrainages d'élus. Ce sera en dernier ressort le juge de paix entre les petits candidats souverainistes, estime François Asselineau.
Et François Asselineau prend donc le Frexit. D'autres candidats à droite et l'extrême droite appellent aussi à des degrés divers à s'affranchir des règles européennes. Ce matin, le représentant d'un pays qui est en train de passer à l'acte s'exprime devant le Parlement européen. Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, le 7 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a jugé que certains articles des traités européens étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Varsovie défend la primauté de son droit national, mais les traités européens engagent un pays. La décision de Varsovie a été vécue à Bruxelles comme une nouvelle menace à l'unité de l'Europe quelques mois après l'entrée en vigueur du Brexit. Alors, quelle ambiance ce matin au Parlement de Strasbourg, rassurant ou inquiétant ce Premier ministre ? Reportage France Inter, Benjamin Hilly.
Mateusz Morawiecki s'oppose au Polexit. Il le répète encore une fois, nous avons beaucoup en commun. Mais encore une fois, il expose sa propre vision de l'Union, celle des nations. Il est nécessaire d'avoir des décisions souveraines, des États membres souverains. Nous disons non si vous voulez créer un super État européen sans nation. En face, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, fait part de son inquiétude. Un défi à relever pour notre unité. La décision du tribunal constitutionnel polonais qui remet en cause la primauté du droit européen sur le droit national fragilise, selon elle, les fondations de l'UE. L'état de droit est le ciment qui nous lie. Nous ne pouvons pas et nous ne laisserons pas nos valeurs communes être mises en danger. La Commission agira. L'une de nos options est l'activation du mécanisme de conditionnalité et nos moyens de pression financiers. En d'autres termes, suspendre les dizaines de milliards d'euros de subventions européennes et de prêts dont la Pologne a besoin dans le cadre du plan de relance, ce n'est pas encore fait, mais la menace est là, même si Ursula von der Leyen s'est dite ouverte au dialogue avant de s'exprimer en polonais pour réaffirmer que la Pologne est et sera toujours au cœur de l'Europe.
Et parmi les députés les plus pro-européens, cette fois-ci, le groupe centriste Renew, qui rassemble notamment les macronistes. Pour eux, ces jours d'élection, le poste du chef du groupe est vacant. Il était tenu par un ancien premier ministre roumain qui renoue avec la politique nationale. Et sauf surprise, ce sera un très proche d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, qui devrait être élu chef de ce groupe Renaissance. Au Liban, de mauvais relents de guerre civile alourdissent l'ambiance depuis jeudi, alors que la crise économique est toujours aussi dantesque. Le chef du Hezbollah, parti parti chiite pro-libanais, affirme en ce début de semaine que son mouvement dispose de plus de 100 000 combattants armés et entraînés. Message à l'intention des chrétiens des forces libanaises accusés par le Hezbollah d'être à l'origine des violences lors d'une manifestation chiite jeudi dernier. Et dans le quartier de Tayouné à Beyrouth, où ces quasi-scènes de guerre ont éclaté jeudi, la tension demeure très vive. France Inter à Beyrouth, Aurélien Colli.
J'étais en train de manger avec mes enfants et nous sommes cachés sous le lit.
Dans son appartement qui surplombe le carrefour de Tayouné, Ahmad a cru mourir jeudi dernier.
Trace de balle ici. Tous les verres sont cassés ici. C'était une guerre.
4 heures d'échange de tirs entre les deux côtés de la rue, entre un quartier chiite et un quartier chrétien où Ahmad habite depuis longtemps, même s'il est musulman.
All of us is living together for
On vit tous ensemble depuis 30 ans, sans problème, souligne le père de famille, plus à l'aise en anglais. Mais tout a été détruit en une journée. Les gens ne se font plus confiance, ajoute-t-il.
I'm Christian, he's Muslim.
Je suis chrétien, il est musulman, nous sommes amis, explique Ellie, copain d'enfance, venu le soutenir. Au final, encore une fois, ces partis vont s'entendre et c'est nous qui payons l'addition, déplore-t-il, exaspéré par ces partis milices qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans. En bas de l'immeuble, Hussein, 70 ans, balaye le verre cassé devant sa boutique. Ma génération, on a très peur de la guerre civile, l'économie qui s'effondre, les pénuries d'électricité, tous ces problèmes. Personne ne veut retomber dans la guerre, s'inquiète ce vieil homme qui a vu ses pires souvenirs remonter jeudi dernier. Il n'y a plus de sécurité, on est tous inquiets que ça explose et c'est encore le peuple qui paye le prix des luttes entre les politiques, estime aussi Nagi, lui habite de l'autre côté de la rue, qui a repris des aires de ligne de démarcation avec des checkpoints et des chars de l'armée massivement déployés. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
La flamme olympique est dans les mains des Chinois, rallumée hier sur le site d'Olympie. Elle a été transmise ce matin à Athènes aux organisateurs des Jeux d'hiver, Jeux de Pékin, qui auront lieu entre le 4 et le 20 février. Aux Canaries, au large du Maroc, un mois que le volcan Cumbre Vieja s'est réveillé sur l'île de La Palma. Il n'a pas fait de mort ni de personnes grièvement blessées, mais quelques 2000 bâtiments ont été détruits, 8% du territoire est touché ou menacé. Et à chaque phénomène météo ou naturel, il y a ses spectateurs. La nuit, sur l'île, l'éruption est un spectacle qui attire beaucoup de touristes, alors qu'en aval, des milliers d'habitants subissent les conséquences des poussées de magma. Reportage Thibault Lefebvre.
Malgré les difficultés pour rejoindre la côte ouest de l'île,
cet itinéraire peut être affecté par Cumbre Vieja, volcan.
Ils sont plusieurs dizaines tous les soirs rassemblés sur une terrasse à environ 2 km du volcan.
Wow.
Comme Marcus, arrivé tout juste de Lituanie, ils sont fascinés par la lave fluide et incandescente qui sort des deux cratères.
C'est très impressionnant. Je n'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. C'est tellement puissant.
Et puis, il y a les explosions régulières qui projettent des cendres et des pierres en fusion sur les flancs du volcan. Ce sont ces images qu'est venu capter Kiko, photographe amateur de l'île voisine de Grande Canarie.
Une image vaut plus que 1000 mots. C'est impossible à décrire. Il y a le feu, la terre et rien d'autre. Depuis hier, la coulée de lave sur la droite a avancé. Elle a enseveli des maisons. J'en profite, mais ça me rend triste.
En contrebas de la terrasse, Carmen observe fatiguée le déchaînement des éléments. Cette ouvrière agricole vit à l'Océano, à quelques kilomètres du volcan.
Je voulais venir voir parce que de toute façon, cette chose nous empêche de dormir. Les tremblements de terre peuvent survenir n'importe quand. Le bruit, les tremblements de terre, tout ça se mélange, tu comprends. Ici, on croit que c'est un spectacle, mais pour nous, c'est pas ça.
Il y a eu, depuis le début de l'éruption, une centaine de tremblements de terre, dont 7 ont été ressentis par la population.
Et 7000 personnes ont dû être évacuées de chez elles, 7000 sur les 85 000 habitants que compte l'île. Voici une des bonnes nouvelles du jour. La France est un pays innovant pour le recyclage du plastique. Le plastique plaide l'industrie, en particulier un tiers des plastiques seulement sont aujourd'hui recyclés. Comment faire mieux? C'est au nombre des brevets déposés qu'on mesure les progrès. Et selon l'Office européen des brevets, Sophie Bécherel, eh bien la France est le deuxième pays le plus innovant en la matière, derrière l'Allemagne.
À l'échelle mondiale, 60% des brevets pour le recyclage du plastique viennent des États-Unis et de l'Europe. L'Asie est quasiment absente. La France se distingue par son haut niveau de spécialisation. Pour les brevets de recyclage, Michelin est par exemple numéro 2 mondial grâce au réchappement des pneus. Côté bioplastique, la santé, les cosmétiques et les détergents font des efforts, explique Yann Minière, économiste en chef au Bureau européen des brevets.
Il y a une grande variété de bioplastiques. Certains sont biosourcés, certains sont biodégradables. Ils ont différents domaines d'application.
Et parmi ceux-ci, on a les cosmétiques et l'emballage, où vous avez L'Oréal, qui est parmi les principaux déposants mondiaux, numéro 7 mondial.
La recherche publique, elle aussi, est au meilleur niveau. L'Institut français du pétrole, le CNRS, les universités ou les écoles d'ingénieurs, en partenariat avec des start-up, à l'image de Cyclades, 8 ans de recherche, 2 brevets et à l'arrivée des marchés de niche, selon son PDG Hervé Guéry.
Ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer des plastiques qu'on passe de solutions de recyclage, qui peuvent être souillés, par exemple, ou en mélange. Et d'un autre côté, on va récupérer des déchets industriels, comme des poutres de peinture. Et avec ça, on vient refaire de la chimie et refaire des nouvelles matières plastiques. On est capable, à partir de maillots de bain en lycra, de refaire des fixations de ski.
Selon l'Office européen des brevets, c'est le passage de la recherche académique à l'industrie qui doit encore être amélioré.
Si vous êtes chez Orange ou SFR, peut-être avez-vous eu du mal à joindre des correspondants de Orange ou SFR. Et il y a une dégradation et une panne chez ces deux opérateurs. Pas de panne générale, assure Orange. On ne connaît pas encore les causes de ces dysfonctionnements. On les appelait autrefois les auxiliaires de vie scolaire, dites aujourd'hui AES. SH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils sont appelés à la grève aujourd'hui. Ils dénoncent la précarité de leurs conditions de travail. En quoi consiste leur métier? Élément de réponse avec ce reportage d'Agathe Mahué, école élémentaire Victor Hugo à Saint-Ouen, en banlieue parisienne.
Une quinzaine d'heures par semaine, Shaker Brahmi s'assoit en classe de CM2 auprès d'un petit garçon autiste qui s'exprime de mieux en mieux.
6 ans de suivi, il parle maintenant. Le jour où il a parlé, il commence, j'avais les larmes aux yeux.
L'AESH rassure, reformule pour lui la consigne et petit à petit le laisse trouver ses propres marques.
Par moment, il me dit tu sors de la classe, je sors complètement de la classe, je reste dans le couloir. Ça me fait plaisir parce qu'il a envie de travailler seul. Et pour moi, c'est un exploit.
Mais pour de telles victoires, il faut des moyens.
C'est un superbe métier, mais on est mal considéré.
La collègue de Shaker, Amel El-Mouri, regrette le temps partiel imposé aux AESH qui doivent parfois se partager un élève.
Un enfant autiste, il a besoin de rituels. Si on est 2 ou 3 AESH sur le même enfant, que chacune a une méthode différente de fonctionner, l'enfant, il est perdu, il se trompe même dans les prénoms.
Je fais de la natation et du foot.
Amel surveille la cour de récré, double contrat qu'elle cumule sans pour autant atteindre le SMIC. Les AESH sont payés en moyenne 800 euros net.
Ça ne nous permet pas de vivre dignement.
Lassée de ce manque de considération, Amel abandonnera le métier à la fin de l'année.
Un nouvel épisode dans la vie du groupe Lagardère, très mouvementé ces derniers mois. Le directeur des rédactions de Paris Match et du Journal du Dimanche, Hervé Gattegnaud, va quitter ses fonctions. Est-ce de son plein gré ou est-il évincé? Le départ sera effectif vendredi. C'est l'un des grands enseignements de la crise sanitaire. La France a découvert un peu plus et brutalement l'utilité de la digitalisation de la santé, téléconsultation, télésurveillance, téléassistance. L'essor de cette pratique amène le gouvernement à lancer un programme d'accélération de la santé numérique. Il a été présenté à Paris cette semaine, 650 millions d'euros pour pérenniser la pratique et insister notamment sur la formation des acteurs de l'e-santé. Il y a urgence, Raphaël Delvolvé, la France accuse un retard.
Pour ne prendre que l'exemple des téléconsultations, elles sont passées de 140 000 en 2019 à 18 millions en 2020, sous l'effet de la pandémie évidemment. Et si la pratique s'installe désormais, sur les 300 000 médecins français, peu sont sensibilisés à la télémédecine, constate Benjamin Zera, fondateur de Philly, une plateforme de téléconsultation.
Actuellement, on n'a qu'une dizaine de milliers de médecins qui sont aptes à faire de la téléconsultation. On propose qu'il y ait vraiment un master de formation.
Le gouvernement envisage de former 200 000 étudiants à la santé numérique ces 5 prochaines années. Près de 500 juristes par an également, car cette pratique nouvelle implique une réelle question de droit. Benjamin Zera.
Il y a peu encore de juristes qui sont prêts à savoir comment marche un remboursement, comment marche la responsabilité des datas, comment marche la responsabilité légale de la téléconsultation aussi. Actuellement, il y a 5000 juristes spécialisés en santé, il en faudrait 10 000.
Le plan du gouvernement comprend aussi la formation des futurs ingénieurs à la santé numérique. Ce sont eux qui développeront les logiciels de la médecine de demain. Le docteur Louis Létinier en cherche pour sa société Synapse Médecine, spécialisée dans le suivi de patients à distance.
Demain, ça va aider le radiologue à mieux diagnostiquer des cancers, les médecins à sécuriser les ordonnances ou les pharmaciens à sécuriser leur travail de conciliation médicamenteuse.
Objectif fixé par le gouvernement, former 1500 ingénieurs spécialisés en e-santé d'ici 2026.
En football, le PSG fait peu faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir. Après un nul et une victoire en deux matchs, Paris reçoit ce soir Leipzig à 21h. Neymar blessé aux adducteurs et Di Maria suspendu sont absents, mais Messi et Mbappé sont bien là. Le championnat que les amateurs de basket suivent de très près reprend la nuit prochaine la NBA, championnat américain. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, entrée en piste des Knicks de New York avec leur nouvelle recrue française Evan Fournier. Il jouait la saison dernière à Boston. Adèle Belroumi, pour Evan Fournier, évoluer à New York, c'était un rêve de gosse.
C'était son rêve de jouer à New York. Alors, vu qu'il était libre cet été, il n'a pas choisi les Knicks par hasard.
C'était une décision facile à prendre. New York est une équipe très attractive avec un très bon coach. L'équipe s'améliore. C'est une belle opportunité. Et les fans français le savent. Je dis depuis des années que j'ai toujours voulu jouer chez les Knicks. Et maintenant, c'est une réalité. Et puis, New York, c'est le Madison Square Garden.
Evan Fournier rêvait de jouer au Madison Square Garden, la Mecque du basketball, son terrain favori à l'atmosphère si particulière. De quoi le galvaniser ou le tétaniser, mais le charentonnais n'a pas froid aux yeux. Bastien Fontagneux, cofondateur du média NBA Trash Talk.
Ça ne tétanisera pas Evan Fournier de jouer au Madison Square Garden. Il la veut cette pression, il l'aime. Nous, on a souvent eu l'occasion d'échanger avec lui. Plus la scène elle est grande, plus il kiffe.
Il arrive avec confiance et son statut de vice-champion olympique dans un club enfin structuré après des années décevantes.
La médaille olympique, elle lui montre surtout qu'il peut se faire respecter sur la scène internationale et en NBA, lorsque les Knicks veulent essayer de passer un cap et redevenir une équipe très compétitive, eh bien, ils n'hésitent pas à signer Evan Fournier pour en faire un joueur dans le 5 majeur titulaire.
Les Knicks de New York ont retrouvé les playoffs de la NBA la saison dernière après 8 ans d'absence et comptent sur Evan Fournier pour aller plus loin cette année. Fournier.
Et c'est justement contre son ancien club de Boston que jouera Evan Fournier dans la nuit de mercredi à jeudi. Le match d'ouverture de cette nouvelle saison de NBA la nuit prochaine. Les Bucks de Milwaukee, les tenants du titre, reçoivent les Nets de Brooklyn. Match à 1h30 heure française. Cette saison, il y aura 13 joueurs français en NBA. Elle était slovaque et à son sujet, on parlait de perfection vocale. La chanteuse lyrique soprano Edita Gruberova vient de mourir à 74 ans. Parmi ses rôles fétiches, celui de la Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée de Mozart, très souvent interprétée à l'Opéra de Vienne, l'un des plus prestigieux au monde. La voici ici dans un autre air, celui des Contes d'Hoffmann d'Offenbach. Contes d'Hoffmann pour rendre hommage à Edita Gruberova, cantatrice qui vient de mourir à 74 ans. C'est l'histoire de la mode en même temps que celle d'un magazine. Le musée de la mode à Paris célèbre le centenaire de Vogue Paris, qui a été autant un support qu'un acteur essentiel du secteur. Amélie Perrier.
La visite débute par les plus de 1000 couvertures assemblées en rotonde comme un panorama d'un siècle de publications. Des magazines dont les plus anciens ont été difficiles à retrouver, nous confie la commissaire de l'exposition Sylvie Lecalvi.
On se rend compte aujourd'hui que le Vogue, c'est un objet de collection. On a eu beaucoup de mal à retrouver des numéros des années 20, des années 30.
Vogue, précieux pour documenter la mode, mais il l'a fait aussi. Par exemple, quand les rédacteurs en chef Michel de Brunhoff, puis Edmond Charleroux, parient sur le jeune Yves Saint-Laurent.
Vogue met vraiment en avant dans les années 60, 70, Yves Saint-Laurent. C'est un vrai soutien pour ce couturier.
Vogue a fait en partie le succès d'Yves Saint-Laurent ?
Ah oui, c'est sûr, oui. Ouais.
Mais Vogue, ce n'est pas que de la mode. Edmond Charleroux, surtout, ouvrira le magazine à la culture. L'emblématique numéro de Noël est confié chaque année à un grand artiste, de François Sagan à Dali, dont on peut voir ici des illustrations à l'encre de Chine.
Depuis les années 20, hein, il faisait travailler Man Ray, Cocteau, Colette, Max Jacob. Et dans les années 60-70, ça perdure avec ses collaborations avec Alain Resnais, avec David Hockney.
Sans parler d'Hitchcock ou de Miro. L'exposition pose aussi la question de l'avenir du magazine au moment où il multiplie les contenus numériques sur les réseaux sociaux. Mais sur la toile comme sur le papier, Vogue Paris, jusqu'à présent, ne s'est jamais démodé.
Amélie Perrier, dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14.
La France mutualiste. Quelle est la capitale du Bénin ?
Porto Novo.
Trop fort, papa.
Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles ?
La France Mutualiste.
La France Mutualiste ?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France Mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à tout.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France Mutualiste.
Groupe La France Mutualiste, mutuelle intermédiaire d'assurance enregistrée à l'Orias.
France Inter aime
Illusion perdue, un film de Xavier Giannoli, d'après l'œuvre de Balzac.
J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Lucien, un jeune poète, quitte sa province pour tenter sa chance à Paris.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Illusion perdue, un film sur la comédie humaine où tout s'achète et tout se vend. Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste et Xavier Dolan, le 20 octobre au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Soleil et grande douceur au programme aujourd'hui.
Et oui, les températures sont en hausse. 19 degrés à Brest et à Colmar cet après-midi, 21 à Lyon, 23 degrés à Amiens, Paris, Ajaccio, 24 au Mans et à Limoges, 27 à Bordeaux, 28 degrés du côté de Biarritz et peut-être même jusqu'à 30 degrés dans l'intérieur du Pays Basque. Tout ça sous le soleil, Bruno. Un petit bémol quand même vers le Languedoc-Roussillon jusqu'au delta du Rhône. Là, le vent de sud-est apporte beaucoup de nuages et quelques gouttes. Le vent d'autant souffle jusqu'à 70 km à l'heure de l'eau d'eau midi toulousain. Notez aussi quelques nuages résiduels près des frontières du Nord et des nouveaux nuages qui arrivent sur la pointe bretonne et ils annoncent l'arrivée d'une perturbation dès ce soir et cette nuit sur la Bretagne et la Basse-Normandie.
Merci Élodie Calac, Météo France. Tout de suite, l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'était lors d'une visite d'un quartier populaire, 19 avril 2021, Emmanuel Macron à Montpellier. Et une dame du quartier l'interpelle. Elle ne lui parle pas de logement, de pouvoir d'achat ou même de sécurité. Elle lui dit cette chose saisissante. « Mon fils de 8 ans m'a demandé si le prénom Pierre existait vraiment ou uniquement dans les livres, tellement il y a un manque de mixité dans le quartier. » Cette anecdote et tant d'autres, on la trouve dans ce livre « Et les Blancs sont partis », livre de reportage qui s'attaque à un sujet tabou, bien souvent laissé à l'extrême droite, la ghettoisation des quartiers populaires. Arthur Freyer-Lalec sillonne depuis 10 ans ces quartiers pour Le Monde, le site Street Press ou la revue Zadig. Comment ce phénomène se manifeste-t-il ? Quelles conséquences ? C'est l'objet de ce livre qui sort alors que le début de la campagne présidentielle fait une bonne place aux questions d'identité et d'immigration. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Bonjour Arthur Freyer-Lalec.
Bonjour.
Un mot du titre « Et les Blancs sont partis », c'est une phrase que vous avez souvent entendue en reportage.
C'est un titre qui est une citation et cette citation, je l'ai souvent entendue dans la bouche de personnes que j'ai interrogées, des gens qui sont maliens, sénégalais, marocains ou franco-maliens, franco-sénégalais, etc. Ce sont des gens qui souvent le déplorent, ce départ des Blancs. Très loin de ce qu'on entend dans la bouche de l'extrême droite, ils en seront souvent les premières victimes. Pour eux, ils voudraient de la mixité, contrairement à ce qu'on entend trop souvent.
Ce qui est frappant dans ce livre, c'est que les mots que les habitants de ces quartiers emploient, et que donc vous retranscrivez dans ce livre, n'ont rien à voir avec les mots que souvent les médias ou les hommes politiques utilisent. Alors, mixité sociale, vivre ensemble, non. Dans ces quartiers, on parle de noirs ou de renois, de rebeux, de... Voilà, on met les mots sur les choses.
On parle d'haïtiens, on parle de
comoriens, de voilà.
De comoriens. Il y a une réalité, les gens sont beaucoup plus décomplexés dans les quartiers populaires français pour parler de la réalité de la France contemporaine, c'est-à-dire de la France multiculturelle. On a une sorte de paradoxe et de schizophrénie en France aujourd'hui. D'un côté, on est une nation multiculturelle, de fait, on l'est. Et d'un autre côté, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas comment nommer les choses, comment l'évoquer. Le reportage, le fait d'aller dans les quartiers et de donner la parole aux gens, donne cet avantage-là. Les gens en parlent et ils sont en même temps français. Les deux se côtoient et c'est pas l'un ou l'autre comme on l'entend trop souvent. Les deux se mélangent et c'est ça qui est passionnant, de raconter ces communautés. Je pense que ce terme-là de communauté, il faut pas en avoir peur. C'est pas du communautarisme.
Oui.
C'est vraiment de la vie ensemble, de la solidarité, pas du tout de repli sur soi comme on l'entend trop souvent, comme l'extrême droite a trop souvent imposé sa définition des termes. Et faire du reportage, je pense par exemple aller à la cité des 4000, à la Courneuve, où on a une importante communauté comorienne, dans les quartiers nord de Marseille, où on a aussi une importante communauté comorienne, où vous allez à Mantes-la-Jolie, au Mureau, où là on a beaucoup de Sénégalais. À chaque fois, on a un morceau de l'histoire de France qui se dessine, et c'est ça qui est passionnant. Les Sénégalais des Mureaux et de Mantes-la-Jolie, c'est des gens qui sont venus bosser dans l'automobile. Les Comoriens sont très présents à Dunkerque, à Marseille, parce que c'était des ports. Et ils sont arrivés par là. Strasbourg, on a une importante communauté turque. Mais on a aussi des villes bien plus modestes. Je pense à Saint-Dié, dans les Vosges, où on va avoir une communauté sénégalaise.
Mais ça veut dire aussi, parce que c'est le cœur de votre livre, vous parlez de ghettoisation ethnique, et vous allez m'expliquer, ça veut dire aussi que tous ces quartiers sont identifiés par une seule communauté. Donc il n'y a pas de mélange.
Alors, il faut nuancer. Il peut y avoir plusieurs communautés. Si on prend l'exemple des 4000 à la Courneuve,
oui. C'est par là que le livre commence.
C'est un des endroits importants de la communauté comorienne. Reste que on a aussi beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Congolais qui s'y côtoient. Par contre, les Blancs ont en bonne partie disparu de l'espace public. Sur la cause de cette disparition.
Juste arrêtons-nous sur ghettoisation ethnique. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire en fonction de la couleur de peau ou du ressenti ou de l'origine réelle ou supposée. C'est ça ce terme d'ethnique, qui est un terme brûlant dans notre République française, oui. Et qui pourtant existe. C'est-à-dire que c'est juste en fonction de la couleur de peau. On a concentré des gens dans certains quartiers en France en fonction de leur origine. Et quand je dis « on », il s'agit essentiellement des pouvoirs publics de l'État français. Ce que disent très bien les élus locaux en général. Il faut tendre l'oreille au maire, qui l'explique très bien, je pense, à la maire de Chanteloup-Lévis. Ah bah,
c'est celle que j'allais citer. Et sur comment est-ce qu'on peut sortir de ce phénomène de ghettoisation, elle dit « Nos quartiers sont des sas d'arrivée. Arrivent des gens qui ont peu de compétences, qui parlent mal français, ils sont formés au fil des années. Et quand ils sont formés, ils s'en vont. »
C'est exactement cette image qu'elle emploie, l'image de sas ou de salle d'attente. Elle dit, nos quartiers, Chanteloup-les-Vignes, 8000 habitants, une cité de 6000 habitants, c'est là où était tourné le film La Haine, et un petit bourg français très classique, 2000 habitants. Et elle dit, dans la cité, l'État français profite des places en logement HLM pour mettre des gens qui n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs. Ils y restent. Et cette mère dit, on met beaucoup de moyens et on change et on améliore les choses. Et elle dit, mais par contre, moi j'ai deux indicateurs. Quand une maman de famille malienne vient me voir en me disant, je veux un autre appartement, je voudrais changer mes enfants d'école, cet élu sait que dans les 2 ans, souvent, la famille part dans le quartier. Ça fait un nouveau logement libre et l'État français remet une famille avec qui tout ce travail d'apprentissage du français, d'acquisition de compétences est à refaire.
Je voudrais citer les propos de Claudia qui nous a appelé au standard parce que ça recoupe les propos de Patrick, je crois, à Argenteuil. Elle est au standard, Claudia, ou pas? Ah ben Claudia, je pensais pas que vous étiez au standard. Soyez la bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Angers?
Oui, exactement, là où j'ai déménagé parce que je ne supportais plus Montreuil. Ça fait 25 ans que j'étais à Montreuil et tous mes amis sont partis aussi, exactement, et c'est Montreuil, donc on n'est quand même pas à mon repas. On n'est pas à Trappes, on n'est pas à Chanteloup-les-Vignes et c'est Montreuil. Donc on ne trouve plus de vie française. En fait, on ne trouve plus de fromager, on ne trouve plus de bouchers normaux, on trouve que des bouchers halal et surtout les agressions dans la rue. Mon fils s'est fait agresser à l'âge de 12 ans dans la rue, on l'a dépecé de tout. J'ai vu devant chez moi des jeunes filles se faire agresser et presque tuer pour un sac. Donc ça devient insupportable. Et le problème des politiques, c'est qu'ils ne sont pas dans ces quartiers. Donc, ils n'ont aucune conscience, ils ne traversent même pas le périph', ils n'ont aucune conscience de ce que ça peut être d'habiter dans ces quartiers. D'autant plus que maintenant, il faut parler des rodéos, hein, des motos, des rodéos, que les gens supportent.
Arthur Freyer, l'Alex. Je voudrais vous entendre, parce que ça recoupe ce que dit Patrick à Argenteuil. Il y a ça aussi dans votre livre, ce que disent ces petites dames de je ne sais plus quelle ville qui se sont éloignées petit à petit. Voilà, l'esprit de votre livre, on le précise du tout, c'est pas d'être dans le repli, pas du tout. Mais quand vous entendez, Claudia, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est une partie de la réalité de ces quartiers qu'il faut absolument pas nier, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs témoignages dans le livre qui recoupe ce que dit Claudia. C'est des sujets très sensibles et compliqués. Oui, ça existe, l'indélinquance dans ces quartiers. Le danger qui a été fait depuis trop longtemps, c'est une sorte de mélange et de fourre-tout de limiter les quartiers à ça. Il faut travailler, mais ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est notamment l'absence de la présence d'élus. Souvent, c'est ce qui... Si les élus ne vivent pas dans ces quartiers, on n'a pas... Mais de la même façon que si nous, journalistes, on n'y va pas,
oui.
On a du mal à appréhender la réalité sociale d'un territoire.
Question de Julie. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je me demandais justement, je crois me souvenir qu'au tout début de son mandat, Emmanuel Macron avait commandité un rapport à Jean-Louis Borloo sur les banlieues, qui était justement un rapport qui devait s'appuyer sur le terrain et des solutions de terrain, notamment venant des maires de ces quartiers-là. Et le rapport a été immédiatement enterré, aussitôt qu'il a été produit. Je voudrais savoir d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi, alors que ce rapport avait été commandé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été utilisé? Et ensuite, est-ce qu'on peut espérer que le jour où il y aura une volonté politique de s'occuper enfin de ces quartiers, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à utiliser dans ce rapport?
Arthur Freyer-Lalex, merci pour votre question.
J'ai pas la réponse sur pourquoi le rapport Borloo a été effacé. J'en profite au passage pour dire que la revue Zadig, par laquelle je collabore, a une longue interview de Borloo
dans le dernier numéro.
Voilà, un numéro consacré aux banlieues. Et très souvent, le problème, en 10 ans de reportage, j'ai vu 9 ministres de la ville se succéder et 3 présidents de la République. On n'a aucune vision d'ensemble, aucune politique globale à destination des quartiers populaires. C'est toujours du coup par coup. Et c'est ce qui manque aujourd'hui trop souvent. Les politiques disent, on va refaire, il faut réinjecter du droit commun. En gros, ce qu'on a sur le papier suffit. Sauf que c'est sur le papier, c'est jamais dans les faits. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des territoires où on manque toujours de profs, on manque de médecins, on manque de pharmacies, de bureaux de poste, de transport, etc. Donc, il y a un discours d'intention qui est fait, quel que soit le bord politique, droite comme gauche, et il y a une réalité qui fait qu'on est toujours à la remorque dans ces domaines-là.
Amaya, mal à l'aise avec ce que disent les gens sur les banlieues, tout cela a été fabriqué, la misère sociale, la misère des étrangers fabrique la ghettoïsation.
Oui, la misère, la question ethnique, ou en tout cas culturelle, oui. Se superpose à la précarité, de façon très troublante en France. On le voit, prenons des villes parmi les 10 villes les plus oui. pauvres de France, hors région parisienne, Mulhouse, Roubaix, Vaux-en-Velin, sont des villes où on a toujours de fortes concentrations de personnes issues de l'immigration. Les deux se recoupent totalement. Les questions sont avant tout sociales et économiques. Mais aujourd'hui, les gens les plus pauvres et les plus précaires en France sont souvent des gens dans ces quartiers issus d'immigration.
Et alors, les politiques de la ville se font, expliquez-vous, sur critères territoriaux, les zones franches. On s'intéresse, on mène des politiques à destination de territoire, pas des hommes et des femmes qui la composent. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour tenir compte de cette ghettoisation ethnique que vous décrivez et qui permettrait d'en sortir?
Le souci des problèmes des politiques de territoire, je me rappelle d'un reportage à Roubaix, justement, j'ai interrogé un pharmacien qui a bénéficié des zones franches urbaines. En gros, déduction d'impôts s'il embauche quelqu'un dans le quartier, à Roubaix. Et il disait, mon souci, c'est trouver quelqu'un avec les compétences, les diplômes, là où je suis, c'était le quartier de l'Alma, il dit, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. J'ai embauché une secrétaire, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Et souvent, on voit ce décalage entre l'intention des politiques. Là, il s'agissait de zones franches urbaines, mais on a aussi droit aux emplois francs. C'est toujours plus ou moins
défiscalisation.
Voilà, défiscalisation. On se retrouve avec des politiques de boîte aux lettres, des entreprises qui en bénéficient de cette défiscalisation sans qu'on crée de façon massive des emplois. Et je suis un peu à court de réponse sur qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Est-ce qu'il faut tendre vers un modèle plutôt anglo-saxon? Je ne suis pas du tout sûr, avec une forme de discrimination positive. Je pose juste la question dans l'ouvrage, parce que c'est une piste qui n'a pas été abordée. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la bonne. Mais on propose en tout cas toujours les mêmes choses depuis 30-40 ans, sans... amélioration de la situation.
Quand vous entendez à droite, en particulier en ce moment dans la pré-campagne présidentielle, dire une réponse à la solution des quartiers, c'est un moratoire sur l'immigration. Est-ce que c'est des choses que vous avez abordées avec les élus locaux? Qu'est-ce qu'ils en disent?
Le moratoire ne peut pas fonctionner. À l'époque de la mondialisation, la France est tellement intriquée dans les échanges internationaux que c'est complètement...
Illusoire.
Illusoire et idiot. C'est qu'on en a besoin. De voir les échanges, je me rappelle, d'un monsieur malien J'étais chez lui en reportage, il ouvre son meuble de salon à l'intérieur, il a les cahiers de compte d'un village, de son village d'origine. Grâce à l'argent de son travail, des gens de sa communauté, il a pu construire des châteaux d'eau, une école dans son village de Kirané au Mali. La France aujourd'hui des banlieues, c'est ça, c'est une sorte de mondialisation invisible par le bas qui échappe au radar, qui nous échappe à nous journalistes souvent parce que on n'a pas l'occasion d'y aller et qui raconte merveilleusement cette interpénétration de la France et de l'étranger. Donc un moratoire, non, c'est complètement...
Et ce que vous racontez aussi, c'est que les associations antiracistes sont divisées sur l'attitude, la politique, les actions à mener, et de plus en plus divisées et voire polarisées au fil des années.
On a en gros une nouvelle génération d'associations antiracistes qui a émergé dans les années 2000, après 2005. Et on a les historiques style SOS Racisme. J'ai tendance à penser que les deux sont assez complémentaires.
Oui.
On les oppose, mais SOS Racisme fait quand même un travail dans les tribunaux vraiment intéressant. Les gens comme Rokhaya Diallo font un travail aussi très juste et passionnant de dénonciation, avec des données très chiffrées. Les deux sont complémentaires. Il faut davantage structurer ça à échelle politique, probablement.
Et quel regard sur ceux qui se radicalisent? Vous citez cette scène, 29 novembre 2014, c'était à Gérard Philippe Saint-Denis. Franco Lolia, le porte-parole de la brigade anti-négrophobie, qui vient pour protester, empêcher, pour dire les choses, la tenue d'un spectacle qui se veut antiraciste, mais qui a le malheur d'être l'œuvre d'un blanc.
On touche à l'une des questions des mesures prônées par certaines de ces associations radical. Je pense que sur la question de la liberté d'expression ou de création, il ne faut en aucun cas interdire un spectacle. Jamais. C'est ça qui permet, c'est dans le cadre du débat et de la discussion publique et sereine, que les idées vont progresser.
En un mot, je voudrais finir sur l'image de Yazid, qui est un de vos guides à Mantes-la-Jolie, et la question de où on est enterré. Et Yazid qui a longtemps hésité, et c'est la dernière phrase du livre, « C'est à mes enfants de décider, c'est eux qui choisiront. »
Exactement. Yazid m'a dit « J'ai longtemps pensé que je me ferais enterrer en Algérie, j'ai trop souffert en France, trop victime du racisme, et au final, c'est exactement ce que vous venez de dire, au final, c'est pas moi qui déciderai, ce seront mes enfants. »
Ce qui ouvre une perspective. Merci beaucoup Arthur Freyer-Lalex d'être venu dans les studios de France Inter, et Les Blancs sont partis. C'est publié aux éditions Fayard, 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Vous avez retrouvé un vieux bouquin tout à fait d'actualité.
Oui, enfin l'interpénétration avec l'étranger, faut-il parler franglais? 1964.
Oui, c'est ça, on verra cela, vous nous raconterez. Le feuilleton, une semaine avec le dernier guitariste de Georges Brassens. Et tout de suite, c'est une chanson.
Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Alors que la saison des prix littéraires approche, une des romancières dont le premier livre est très remarqué cet automne, Salomé Kinner, autrice de Grande Couronne, édition Christian Bourgois. Elle est en lice pour le prix de Flore qui sera remis en novembre. Et elle est à votre micro aujourd'hui Frédéric.
Et Grande Couronne est un grand livre, de ceux qui vous laissent des images bien longtemps après la lecture, fin des années 90. C'est le quotidien d'une collégienne du Val d'Oise. Elle a 13 ans, elle rêve de vêtements de marque, intègre sans trop s'en rendre compte un réseau de prostitution. Tout cela en écoutant Alliance Ethnique, Ricky Martin ou Ophélie Winter.
Il y a beaucoup de musique parce que pour moi c'était important de reconstituer l'univers de cette époque, mais aussi d'une adolescente, parce que j'ai l'impression qu'à l'adolescence, plus que la littérature, plus que le cinéma, c'est la musique qui nous construit. Et on garde très très longtemps l'empreinte des chansons qui ont été importantes à cette époque-là.
Parce que c'est peut-être plus accessible que le cinéma ou que la littérature?
Absolument, je crois que c'est plus accessible. C'est aussi des micro-fictions dans lesquelles on se projette très rapidement. C'est collectif. On écoute de la musique en groupe, on va à des concerts en groupe, contrairement à la littérature qui est quand même une pratique très individuelle. Et puis, il y a la star.
Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Je porterai plus que mes bras noirs. Je ne te demanderai plus de m'appeler.
C'est donc Rester femme qu'a choisi Salomé Kinner.
Un titre d'Axel Red, sorti sur son deuxième album en 1996. Salomé Kinner, ado, elle avait des posters d'elle dans sa chambre.
J'ai beaucoup écouté Axel Red, j'ai beaucoup aimé la figure d'Axel Red. Elle avait ce côté qui était un petit peu femme-enfant, ses premiers albums où elle posait avec des peluches ou des poupées de chiffon. Elle avait quelque chose de fragile, à la fois dans la voix, dans l'apparence. Et en même temps, elle avait cette féminité un peu ardente, avec les cheveux rouges. Et elle chantait des chansons d'amour, donc forcément, elle avait quelque chose que j'aimais bien. Une force et une fragilité mêlées qui me plaisaient beaucoup.
Je voulais savoir où tu es, qui tu vois, qui te sépare de moi. Je ferais semblant de croire tes mensonges, et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi.
Cette chanson a donc 25 ans. Alors, est-ce que ça vieillit, une chanson en 25 ans? En tout cas, Salomé Kinner, qui elle en a désormais 35, l'écoute d'une toute autre oreille.
J'ai des sentiments très ambigus pour cette chanson parce que je me suis rendu compte que c'est une chanson absolument terrible qui parle d'une emprise amoureuse. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, on a chanté cette chanson à tue-tête en pensant que c'était ça. L'image d'une femme épanouie, de l'amour et de ce qu'on attendait pour nous-mêmes en termes d'histoire amoureuse.
C'est une dénonciation ou c'est une apologie de cette situation-là ?
Je crois pas qu'elle dénonce. Je pense qu'elle embrasse complètement sa condition de femme éperdue, amoureuse, qui dépose toute velléité d'autonomie et d'indépendance aux pieds de l'homme qu'elle aime. Et c'est une situation dont elle fait presque l'apologie, puisque c'est ça pour elle, être femme. D'où un petit peu les frissons que je ressens quand je l'écoute aujourd'hui.
Pour vous, c'est pas ça, être femme ?
Ah non, c'est pas ça, non. Et être amoureux non plus, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis que j'ai des sentiments très ambigus par rapport à cette chanson. Elle a rythmé certains moments importants de ma vie, elle a été chantée avec amour, et en même temps, a posteriori, quand je vois ce qu'elle raconte, elle me dégoûte un petit peu.
Rester femme, Axel Red, que nous faisait donc écouter Salomé Kinner.
Salomé Kinner, dans le premier roman Grande Couronne, formidable, est donc sorti chez Christian Bourgois, éditeur.
Ce vendredi marquera le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Et jusqu'à vendredi, grâce à Jérôme Cadet, nous sommes avec celui qui a été son dernier guitariste, Joël Favreau. Il a 82 ans aujourd'hui, il est de ceux qui entretiennent la mémoire de Brassens. Aujourd'hui, la rencontre entre les deux. Nous sommes en 1966, Théâtre National Populaire.
J'accompagne une chanteuse qui s'appelle Colette Chevreau et qui était une copine de Brassens depuis longtemps. Et elle m'a amené tout de suite dans la loge de Brassens quand il passait au TNP. Et alors là, j'étais absolument sidéré parce que je ne m'attendais pas à rencontrer un monsieur comme ça. En fait, moi, c'était un peu un être virtuel, quoi. C'était un auteur. J'avais vu que des photos de lui comme ça, de ci, de là, sur des petits formats. Ouais, et je me retrouve face à un balèze, quelqu'un qui est vraiment très costaud, qui a un regard puissant. Et je dois dire que j'étais complètement intimidé. Il s'est foutu de moi, évidemment. Après, il m'a dit « Tu étais glacé d'épouvante ». Peu de temps après, on est parti en tournée. Alors, il a pris Colette Chevreau en première partie. Alors moi, dès que j'avais fini avec elle, j'allais dans sa loge. Et puis, ça faisait déjà 2 heures qu'il gratouillait en chantonnant quelques chansons. Et j'ai commencé à mettre un pied, puis deux, puis j'ai amené ma guitare, et puis j'ai commencé à faire des gousies, enfin des petites choses, par-dessus des chansons que je connaissais pas d'ailleurs. Puis ça lui a peut-être pas trop déplu, parce que là, il m'a parlé d'un projet qu'il avait de réenregistrer avec moi l'album de la Supplique, parce que c'est le seul qui n'avait pas de deuxième guitare.
Qu'est-ce que c'est une deuxième guitare, pour ceux qui ne connaissent pas la musique, Joël Favreau ?
Eh ben, c'est des petits contrechamps, des petites ritournelles qui entre le refrain et le couplet qui va suivre. Tout le monde connaît, par exemple, « Je me suis fait tout petit ».« Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. »« Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. » guitare. Ça, je suis censé le faire à la deuxième guitare.
C'est
moi qui le faisais parce que voilà. C'était enregistré avant que je sois dans la course, quoi. Mais il y a dans beaucoup de chansons de Georges, il y a toujours ces petites ritournelles qui font absolument partie de la chanson. Un jour, j'ai reçu le coup de téléphone. Allô, c'est Georges. Est-ce que tu veux bien venir jouer avec moi dans mon prochain disque pour mes chansons? Donc, je sais pas si on peut se rendre compte du cadeau que c'est pour un gamin quand même qui est de jouer avec Brassens comme ça. Quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il m'a dit ce que tu veux. Mais, vieil indien, il m'a dit, est-ce que ça t'embêterait pas dans telle chanson de jouer quelque chose qui ressemblerait vaguement à ça? Le « ça » en question, c'était la ritournelle qui fait partie de la chanson.
Brassens, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié le solfège au départ. Est-ce que ça s'entendait? Est-ce qu'il y avait une particularité autour de ça?
J'ai jamais entendu dire « est-ce que tu peux me faire un fa dièse ?» Mais dans les passantes, il a dit à Nicolas... Il savait très bien ce qu'il voulait parce que
Pierre Nicolas,
oui, son bassiste. Ah, il disait, fais-moi cette note là, fais-moi cette note là. Et Nicolas, évidemment, très jaloux de ses prérogatives, il disait, il fait chier le vieux. Il disait, il fait chier, mais il a raison.
Joël Favreau, le dernier guitariste de Georges Brassens, toute la semaine avec Jérôme Cadet, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
S'il y a un homme qu'on imagine furetant dans des salons de bibliophiles et de vieux bouquins, c'est bien Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Jean, vous avez trouvé ce week-end un vieux polycopier, 200 pages, intitulé « L'invasion des mots anglais dans le français moderne ».
Et je l'ai acheté au salon des vieux papiers. Enfin, maintenant, ça s'appelle Bibliomania. Il faut se familiariser avec les mots nouveaux, Bruno.
Oui.
C'est le travail d'un an, 1964, de 120 élèves d'HEC, jeune fille. HEC, JF, il faut se souvenir des sigles anciens, Bruno.
Oui.
C'était un établissement de la Chambre de commerce de Paris. Ces élèves ont élaboré et réalisé un sondage, puis interrogé des personnalités, une par étudiante, et au beau milieu de leur travail, paraît, en 64 toujours, un livre sur le sujet qui met le feu aux poudres.
Parlez-vous franglais, d'emblée en format de poche d'ailleurs.
Oui, signé par un universitaire réputé, René Etiamble, redoutable bretteur. 35 000 mots anglais se seraient introduits dans le vocabulaire français depuis 44. Alerte générale, dit-il. Le Figaro décide de mettre dorénavant tous ces mots entre guillemets. Morvan Lebesque rigole dans le canard. Allons-nous devoir parler Figaro? Et Pierre Daninos sourit. Parlez-vous Frenglish? Il est l'auteur des carnets du Major Thompson, dont le héros est un officier britannique francophile. Depuis la fin de la guerre, les techniques, les produits d'origine anglo-saxonne ont évidemment le vent en poupe. Duffelcoat, blue jean, blazer, t-shirt. Alors, il n'est pas étonnant, dit Daninos, qu'on utilise les mots qui vont avec les produits qu'on importe.
Et alors, que donne le fameux sondage réalisé par HEC Filles, jeunes filles, sur l'invasion des mots anglais?
85% des personnes interrogées jugent le terme « invasion » adapté à la réalité. Mais pour le reste, quant au jugement, les personnalités interrogées sont dans le clair-obscur. Faut sauver les mots anciens, clair-obscur. Ni laxisme, ni chauvinisme. D'autant que les sondeuses tendent des pièges qui ébranlent les convictions. Par exemple, il est demandé lequel de ces deux mots est d'origine anglaise. Sport ou partenaire? Alors, la réponse spontanée, c'est sport. C'est partenaire. Cependant, des grandes tendances se dégagent. Plus on est vieux, plus on accuse les jeunes d'introduire l'anglais dans le vocabulaire. Que les septuagénaires qui écrivent aujourd'hui courroucés sur ce sujet à la médiatrice de Radio France s'interrogent sur leur pratique dans leurs vertes années. Autre constatation, moins on sait l'anglais, plus on le craint. Et moins on sait l'anglais, plus on rejette la francisation des mots anglais. On préfère les isoler en conservant leur prononciation. Exemple, pipeline. Ceux qui préconisent cette solution sont ceux qui prononcent le plus mal l'anglais en général. Alors, apprenez une formule nouvelle, Bruno. Les mots venus d'ailleurs, mis en résidence surveillée, seraient des xénismes.
Tout ça, 1964, pour l'enquête qui sont les agents de contamination.
Publicitaires, commerçants et la radio. Telle personnalité consultée recommande qu'on nous transmette des consignes qui seraient des ordres et qu'on nous mette, pourquoi pas, à l'amende. Un éditeur tient une solution, qu'on nationalise les postes privés. En réalité, en matière de solutions, explique l'enquête, il n'y en a pas une, il y en a mille. La substitution au vocabulaire anglais de mots français, redécouverts ou inventés. La francisation. Alain Resnais, le cinéaste, dit « s'il faut vraiment garder travelingue, qu'on décrive travelingue, G-U-E ». Enfin, la dérivation des mots greffés. On aime modérément les gangsters, mais acceptons gangstérisme. En réalité, disent les élèves de HECJF, le crime, que jeune fille, oui, le crime contre la langue, c'est le vol à main armée de la syntaxe. Et elles prennent un exemple. Où est la vraie faute? Venez acheter un sweater à Poissy ou bien acheter Poissy? La faute, c'est acheter Poissy. Hein. L'oubli de la syntaxe est beaucoup plus inquiétant encore que l'usage paresseux de mots surimposés.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et donc ce texte de 1964 qui résonne très fort.